Rabotai, on va commencer Bezrat Hashem, notre quatrième cours. Allez, on y va. On va essayer de faire trois quarts d'heure de cours, concentré. Donc on va essayer de faire trois quarts d'heure de cours sur le... Aujourd'hui, on va faire le quatrième cours sur le chapitre 37. Nous sommes à la page 148. On va faire un petit résumé en 2-3 minutes de ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Nous avons expliqué longuement que le but de la venue de Mashiach, les gens pensent que... Allez, messieurs. Joe, vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît, sans vous commander. Non, mais, Avner, ferme la porte, s'il vous plaît, la porte, là, devant, là. Merci. Voilà. Nous avons expliqué, dans les premiers cours, du chapitre 37, on a déjà fait trois cours, que l'avènement messianique, Mashiach, on arrive à parler de Mashiach, c'est pas seulement une récompense, un salaire pour un travail qu'on va accomplir, mais c'est en fait une réalité que nous sommes en train de créer déjà maintenant. On a déjà fait trois cours dessus, donc on a déjà bien développé cette idée. On a expliqué longuement que chaque fois qu'on va manger quelque chose, qu'on va utiliser un objet, qu'on va utiliser quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, on a expliqué longuement que chaque fois qu'on utilise quelque chose, en vérité, on est quelque part en train de récupérer une étincelle d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve quelque part dans le monde. Ça, c'est ce que nous avons expliqué longuement. Alors, cette semaine, on va rentrer un peu plus dans les complications, mais c'est très joli. On va rentrer dans les complications des âmes. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ça très rapidement la semaine dernière. T'es avec moi, messieurs ? Combien d'âmes existent ?
600 000.
Alors, attendez. On va reprendre l'histoire. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, on était combien ?
600 000.
Ah, les âmes.
Exactement, les âmes. Oui, les âmes.
603
550.
Ah,
voilà.
Mais c'est Google.
D'accord ? Wikipédia. Ok, Google. D'accord ?
Combien
la téléphone qui se réveille. Je répète. Combien nous étions? 603 000. C'était comme sur le rigolo.
550.
Oh, Rabat. Combien de personnes on est sorti d'Égypte? 603 000.
Alors, je vais venir.
500 000. Ah, là. C'était le but. Alors. Non, mais 603 000. 550. On n'a pas mis le 5 à la fin. Il manquait juste le 5 à la fin. 603 000, 550. Très bien. Maintenant, quand on voit le compte, c'était très curieux, parce qu'entre-temps, on a passé 40 ans dans le désert. Et entre-temps, il y a eu des épidémies, il y a eu des telles choses, etc. Quand on refait un recensement un an plus tard...
C'est que les hommes, hein, ça.
Oui. Quand on refait le recensement un an plus tard, on retombe à combien ?
Pareil.
603 550.
J'ai pas
fini. 38 ans plus tard, on refait encore une fois un recensement. Entre-temps, il y a eu entre-temps des morts, etc. et tout. Non. On refait un recensement... 603 550.
C'est le 13e, c'est quoi?
Alors, comment ça se fait?
C'est quoi cette histoire?
Justement,
comme il dit, c'est le 13e.
Le nombre de morts et le nombre de naissances.
Ah, donc,
il y a non, mais c'est le 13e, il n'y a pas de mort.
Il
n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort.
Ah oui,
vous savez ça, hein? Il n'y a pas de mort, il n'y a pas les morts. Il n'y a pas, et personne qui meurt. C'est immortel.
Les Chinois, il n'y a pas.
Il n'y a pas, on ne connaît pas.
Il les remplace.
D'accord? Ouais. Bonjour, mon cher. Ching. Oui, il est là. Le voilà, c'est moi. Alors, là, il y a une question très simple. Comment ça se fait? Comment on fait? Comment on fait pour être toujours le même nombre? Alors, en fait, le Zohar explique la chose suivante. Le Zohar dit que c'est pas juste parce qu'on veut tomber sur le même nombre, mais qu'on veut tomber sur un chiffre par hasard. Le Zohar explique que ce chiffre correspond au nombre de Neshamot qui existent sur Terre. Au nombre d'âmes. Alors, on grossit ça en général à 600 000, mais en fait, c'est pas 600 000. C'est 603 550. 550. D'où provient ce chiffre? 603 550. Ce chiffre provient de la création du monde. Lorsque Dieu a créé Adam, on dit que Adam Arishon, Adam, est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, une Neshama Klalit. Une Neshama Klalit, je traduis, ça veut dire une âme générale. Le Zohar explique qu'en vérité, Adam, dans son âme, il a en lui 603 550 âmes qui ne sont pas encore développées. Ok ? Et après, une fois que Adam va partir de ce monde, puisque nous sommes tous les descendants d'Adam, forcément, on aura tous un petit peu d'une de ces âmes. On va expliquer le calcul, comment ça fonctionne. Là, on va rentrer dans les calculs. Donc, Encore une fois, 603 550, on démarre du chiffre 1, mais dès le départ, on retrouve 603 550. Maintenant, je vais aller plus loin. Akadosh Baruch Hu a prévu, depuis la création du monde, tu entends David ? Akadosh Baruch Hu, il a prévu depuis la création du monde.
David, t'as mangé hier, tu manges aujourd'hui.
Akadosh Baruch Hu, il a prévu depuis la création du monde quelle parcelle du monde correspond à quelle âme. Si vous voulez, il a découpé le monde, et je dirais même pas que le monde, l'espace, parce qu'il y a même l'espace, la lune, tout. Il a découpé le monde en 603 550 parcelles. Des quartiers, comme des quartiers, vous savez, on coupe comme les Américains, tu vois, les États, 50 États. Ben là, en vérité, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a découpé en 603 550. Et chaque Neshama a son quartier. Vous croyez que c'est par hasard qu'on est en France? Et qu'en France même, on est à Paris? Des gens, je viens de dire, ils sont venus de Tunisie, ils sont venus du Maroc, venus d'Algérie. Je crois qu'ils ont atterri à Paris. Il y a beaucoup qui ont atterri à Marseille, il y en a qui ont atterri à Strasbourg, il y en a qui ont atterri à Lyon.
Aussi.
Il y en a qui ont atterri en Israël. Je parle même en France. Prenons, on atterrit à Paris. Prenons, on atterrit à Paris, quel rapport? Vous pensez que c'est parce que le préposé qui plaçait les gens, il a dit bon, toi tu vas à Paris?
Le placier.
Vous pensez, le placier exactement, vous pensez que c'est parce que on avait envie de venir à Paris parce que Paris c'est la ville de lumière?
Non, parce qu'il y a les allocs.
D'accord? Non, mais compris. T'inquiète pas, il y a aussi la Terre Sainte, les raisons on peut les trouver partout.
On n'est pas des beurs.
Il y a le Canada, il y a des Marocains. On n'est pas des beurs. On vit au Canada, tu sais. Qu'est-ce que t'en sais? T'aurais pu finir soit en France, soit au Canada, soit en Israël.
Anisette.
Pourquoi t'as pas fini au Canada? Pourquoi t'as pas fini en Israël? Pourquoi ton oncle à la Vacham, il est atterri en Israël, et toi t'as atterri ici? Ton père, il atterri ici. Il va aller le Chaim Tobin. Nous, on croit que c'est un hasard.
Il n'y a pas de hasard.
Hein? Les Tunisiens, quand ils ont fait l'Alia, ils sont partis où? Il y en a qui sont partis en France, il y en a qui sont...
Là où il y avait de la morale,
ils ont été... Pourquoi? Pourquoi vous vous êtes atterri à 13e et pas à Belleville?
Que le 1% patronal.
Et vous croyez que Dieu ne peut pas vous trouver un 1% patronal
à Belleville?
À Belleville.
Après, bon, pour moi, c'est un hasard. C'est... Attends, non.
On a commencé à Belleville.
Pourquoi? Alors, ça, c'est la réponse. La clé de la réponse, nous, on n'arrive pas à comprendre, mais la clé de la réponse, c'est qu'encore une fois, le monde a été découpé en quartiers. Ok. Et chaque quartier, chaque parcelle appartient à une personne. Ça veut dire, par exemple, tu peux avoir un champ. Dans le champ, tu as 100 000 tomates. Dans les 100 000 tomates, tu as 100 tomates qui appartiennent à ce quartier, 100 qui appartiennent à ce quartier, 100 qui appartiennent à ce quartier. Après, Dieu va faire en sorte que la bonne tomate parvienne à la bonne personne. Parce que, ah oui, parce que la tomate qui est arrivée dans mon assiette, c'est la tomate que Dieu a prévue. Parce qu'elle correspond à mon quartier. Elle correspond à une parcelle qui m'appartient depuis la création du monde. C'est fou, hein? C'est fou,
c'est ça. C'est pas un hasard, tu vas chez le
marchand. Mais ça, c'est pas un hasard.
Marchand du coin, bien chez.
Je vais vous raconter un exemple. Vous savez, le Baal Shem Tov, j'ai mentionné ça la semaine dernière rapidement. Le Baal Shem Tov, une fois, il a expliqué à ses élèves la chose suivante. Il leur a dit, vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il a un œil sur chaque chose qui se passe dans ce monde. Chaque chose. Les hommes, les animaux, les juifs, les non-juifs, d'accord? Dans les animaux, tout ce que tu veux. Tous les hommes, les animaux, les fourmis, les plantes, les végétaux, les minéraux, etc. Le Baal Shem Tov, il a dit, Dieu, il a un œil sur tout. Comme vous aurez dit un patron, mais c'est un bon patron, qui regarde tout et qui a son œil sur tout et qui gère tout. Alors les élèves, bien sûr, ils étaient dérangés par ça. Ils ont dit au Baal Shem Tov, ils ont dit, mais attendez, regarde, ils étaient en automne. Il y avait des feuilles partout, vous savez, comme dans l'automne, il y a des feuilles partout. Nous, on roule dessus en voiture, en à pied, etc., on ne le regarde même pas. Ils ont dit, mais voilà, tu as des feuilles par terre. À quoi elles servent, ces feuilles? Elles ont un but. Pourquoi elles ont été créées? Tu veux me dire que même ces feuilles, elles ont été créées par un but spécifique pour Dieu? D'accord? À quoi elles servent? Est-ce que tu veux me dire que Dieu regarde personnellement la feuille, et il la regarde, et il dit, tu as un but? Le Baal Shem Tov a dit oui. Même la feuille qui est en train de tournoyer dans les airs, elle a un but. Et il leur a donné un exemple. Il a dit, venez avec moi. On va aller dans la cour. On va suivre une feuille. Je sais pas si vous imaginez la scène.
Ils vont suivre
une feuille. T'as le Baal Shem Tov avec tous ses élèves derrière. Ils sont en train de courir derrière une feuille qui tournoie dans les airs. Et donc ils sont mis à courir derrière la feuille. Il court derrière la feuille. Il voit une feuille, il est en plein automne, une feuille qui tourne dans les airs comme ça. Et à un moment, ils suivent. Tac, tu vois la feuille, elle décolle, elle atterrit, tu sais, elle est dans les airs comme ça, tu sais, elle fait des feintes. Et à un moment, elle atterrit, pile à un endroit. Elle s'arrête. Après, toute la feuille continue, celle-là, elle s'arrête. Attendez.
C'est pas hasard, ça.
Attendez. Parce que Shadow, il leur a dit, attendez, on va attendre quelques instants, on va regarder ce qu'il y a en dessous de cette feuille. Ah oui. Parce que cette feuille est venue, elle s'est placée pile à cet endroit. Eh bien. Ils ont attendu quelques instants. Le vent s'est calmé. La feuille est restée à sa place. Jacob, il a dit, maintenant, on va prendre cette feuille, on va la lever. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous de la feuille? Il y avait une chenille.
Ah, tu l'as vu?
Hein? Ben, c'est magnifique, cette histoire. Il y avait une chenille en train de souffrir, qui était en train de souffrir. Elle était en galère. Et Dieu lui a envoyé une feuille pour la protéger.
C'était peut-être une fourmi.
Une chenille.
Il faut que je nourrisse.
Maintenant, regardez ce que dit le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, tu t'imagines. Ça veut dire que, c'est même pas que Dieu, il a envoyé une feuille pour servir un homme, pour servir un juif, pour servir je ne sais quoi. Il a envoyé une feuille pour sauver une chenille. Tu vois pas, c'est le mariage de la feuille et la chenille. Nous, on écrasait la feuille et la chenille, on roule dessus. Baal Shem Tov te dit non. Te dit à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé la feuille qui tourne pour la chenille. Il y a plein d'exemples sur ça dans la Gemara qui montrent que, après on va revenir à nous, qui montrent que Kadosh Baruch Hu, il prévoit, il a un œil sur chaque chose qui se passe dans le monde. Il y a un exemple dans la Gemara aussi. La Gemara dit qu'il y a un animal, on n'a pas le nom de cet animal, c'est un animal, on a le nom en araméen, c'est un animal qui, lorsqu'il accouche, sa souffrance est tellement dure, il a une tellement grande souffrance de l'accouchement, que normalement il devrait mourir. La souffrance de cet animal pendant l'accouchement, pendant qu'il accouche son bébé, est tellement grande que normalement il aurait dû mourir. Qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu? Il veut pas que l'animal meure. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il envoie pile à l'instant où l'animal doit accoucher, il lui envoie une moustique qui le pique. Parce que vous savez, c'est un principe physique, que quand votre corps est déjà occupé avec une douleur, il sent moins une autre douleur. C'est une technique qui est connue, d'accord? Vous pouvez essayer, par exemple. Essayez, pincez-vous, et de l'autre côté, un autre qui vous pince, vous allez moins sentir que si vous ne pincez pas. Parce que votre tête est déjà occupée. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Pour que cet animal, ne meurt pas de la souffrance, parce qu'il va souffrir un peu quand même, il lui envoie une moustique qui va le piquer pile au moment où il doit accoucher.
Mourir ou accoucher?
Alors toi tu vois ça, tu dis mais attends, c'est une moustique qui a piqué un animal. Tu dis mais attends, une moustique qui a piqué un animal. Une moustique qui a piqué un animal. Chaque chose est à sa place. Chaque chose est voulue. Comme ça dit la Gemara. Il y a aussi un exemple qui est très connu avec le roi David. Le roi David. Une fois le roi David, il avait une araignée qui était là en train de lui tourner, qui lui cassait les pieds. Alors il a posé la question à Dieu, il a dit mais pourquoi t'as créé les araignées? Mais c'était pas une question, c'était presque une attaque du style une révolte. Qu'est-ce qu'elle fait cette araignée ici? Qu'est-ce qui me casse les pieds? À quoi elle sert cette araignée? Dieu lui a répondu, il lui a dit viendra le jour où tu comprendras à quoi elle sert l'araignée. Et c'est quoi l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Lorsqu'il était poursuivi par Saül,
il s'est caché.
D'accord, il s'est caché dans une grotte. Et le temps qu'il s'est caché, il y a une araignée qui est venue, plusieurs araignées qui sont venues, qui ont fait une toile. Et la toile était tellement bien faite que lorsque Saül est passé devant, il a dit mais c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui est dedans, la toile d'araignée, c'est pas possible qu'elle est là. Et là, quand David Améler il a vu ça, il a vu, il a compris. Maintenant, écoutez bien. A priori, Dieu lui a pas répondu à la question. Tu m'as répondu à quoi elle m'a servi l'araignée maintenant. Mais à quoi elle servait l'araignée quand elle nous cassait les pieds dans mon bureau? Mais là-bas, j'avais pas besoin de toile. Seulement, voilà ce que voulait montrer à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu voulait lui montrer de la même façon que maintenant tu as compris à quoi elle sert l'araignée et que là c'est clair. Sache que chaque fois que j'envoie une araignée, il y a une raison. Alors peut-être t'as pas compris. Maintenant t'as compris. Une fois t'as compris. Mais chaque fois il y a une raison. Il y a rien qui est par hasard. Tout ce qui arrive dans le monde, chaque chose qui arrive dans le monde, chaque petite chose qui arrive dans le monde est voulue personnellement par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a une surveillance personnelle et individuelle sur chaque chose qui se passe dans le monde. Chaque élément. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Ça veut dire qu'il n'y a pas la moindre erreur.
Tu crois ça, Mika?
Il n'y a rien qui lui échappe.
C'est dur.
Non.
Tu loues une maison à la campagne.
Il n'y a rien qui échappe à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui échappe à Kadosh Baruch Hu.
C'est renversé par une voiture, c'est voulu. Celui qui perd son enfant, c'est voulu.
Tout. Évidemment que c'est voulu. Ça serait grave, monsieur Benita. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que si par exemple quelqu'un il décide de prendre un pistolet et tuer quelqu'un d'autre, de quel droit il prend la vie à quelqu'un d'autre? Si c'est pas Dieu qui avait décidé.
C'est un accident de la voiture, de la route.
C'est voulu par Dieu. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas dans quelque chose de Dieu. Je vais vous dire plus que ça. Ça vous est déjà arrivé de glisser dans la rue?
De glisser.
Oui. Pour un peu de banane. Quand vous allez, ça vous arrive peut-être, ça m'arrive à moi, peut-être ça vous arrive, d'aller pour faire une faute. Peut-être.
Je vais
d'aller faire une faute.
Une faute?
Non, vous êtes en route et vous voulez faire une faute. D'accord. Un exemple.
Ah, en voiture.
Ah, en voiture ou à pied ou ce que vous voulez. Vous êtes en route en train de faire une faute.
Un jambon beurre.
D'accord. Pourquoi Dieu ne vous fait pas glisser sur une peau de banane?
Ah, ça serait bien.
Ça serait bien, ça. Le gars va faire une avéra, peut-être qu'il est dans là, pac, il glisse.
Parce qu'il n'y a plus le libre arbitre après.
Non, mais attends, pourquoi il fait ça? Pourquoi Dieu il fait ça? Si je me dis qu'il maîtrise chaque chose, pourquoi il ne me fait pas glisser? Parce qu'en vérité, Dieu, il me laisse faire, parce que d'abord, il veut me laisser le libre arbitre, et parce que Dieu, il sait que même de cette avéra, on peut tirer quelque chose de bien. Parce que je ferai le tchouba après.
Oui, mais enfin,
Attendez,
non,
ça
non, c'est principe,
non, on n'a pas le droit de faire une avéra. Oui. Vous êtes sûr qu'on n'a pas le droit de faire une avéra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui est par hasard dans le monde. Et revenons à notre sujet. On a dit qu'il y a 603 550 âmes. Maintenant, on est beaucoup plus que 603 550 juifs dans le monde. On est beaucoup plus. Donc, comment faire le calcul? On va expliquer. Mais il y a 603 550 juifs, âmes, pardon, dans le monde. Et il y a 603 550 parts qui correspondent à ces âmes dans le monde. Et chaque part correspond, c'est un puzzle, chaque part correspond à chaque neshama. Ça veut dire qu'il y a une neshama qui a sa part dans le monde. Et Dieu s'arrange pour que chaque parcelle de chaque part revient à la neshama qui lui correspond. Donc là, quand on voit ça, c'est là qu'on comprend qu'on est très 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 loin de comprendre comment Dieu gère son monde. Parce que là, c'est ingérable. Imaginez, vous voyez là, vous avez un cracker. Comment on a fait les crackers? Vous savez comment on les a fait?
La farine.
Ah, d'accord, mais la farine. Peut-être que celui-là, il vient du champ numéro A44,
ah oui.
Celui-là, il vient du champ numéro B98. Maintenant, le champ A44, il correspond à la Neshama numéro 593-444. Celui-là, il correspond à la Neshama, à une parcelle qui appartient à la Neshama, 212-448. Et chacun, Dieu, il va faire que toi, tu prends ce cracker, moi, je prends celui-là.
D'accord. Ah, non.
Bon, ça mérite un Echaïm, ça l'a dit.
Je ne regrette pas.
Ça mérite une question.
Et j'ai pas encore vu.
Une question.
16. Ça dépend, 16 ou...
Bien sûr.
Mais alors, ça veut dire que ces Neshamot, c'est uniquement pour les Juifs. Il n'y a pas le néchant pour l'égoïsme.
Non.
Alors, l'égoïsme,
c'est pour toi.
Sur la force banane, il
n'y
a pas
le livre.
Pour
toi. Non, l'égoïsme, c'est pas les acteurs principaux.
C'est très bien comme nous.
Vous qui se convertissent.
Oui,
là, ils ont accès.
Il y a les acteurs principaux et les acteurs secondaires.
Il y a une place pour eux aussi, mais vous qui se convertissent.
Les figurants. Allez, servez les chaïms. Ça, c'est encore avant les chaïms. Bon, on va continuer.
Laborant.
Non. Alors.
Allez,
les chaînes. Non, la vodka. Il y a des verres.
Il y a du bronze.
Il y a des verres.
C'est la bonne. Hein. C'est du bronze, c'est du brutal.
Pourquoi c'est dur? Il y a pas de hasard.
M'a dit. Je peux sans vouloir penser, m'a dit. Avec tout respect pour toi. Là, il y a un paquet de. D'accord.
C'est bien sûr.
Ceux-là, ils viennent tous du même genre. C'est impossible.
Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais?
Comment c'est fabriqué?
Demande à quelqu'un qui est dans la production, il va te dire.
Ah non, arrêtez. Il faut le production,
il met. Il vient pas du même champ, pas du tout.
De farine, il y a un pétrin qui se met en marche, qui mélange tout. Après,
c'est mélangé, c'est impossible, c'est ingérable. C'est impossible, c'est ingérable.
Et alors la farine. Ah là, je
suis ça. Pas du tout, c'est mélangé.
C'est pas le même épi de blé. Chaque épi de blé est différent.
Après, ça se mélange 20 fois.
C'est comme le lait quand tu vas.
Exactement.
Quand tu vas chez Axel, c'est une grosse.
Bon.
Tu fais le tour de monsieur machin, de la champion, de machin, de la vache, de ce gars.
C'est mélangé. Ouais, vas-y. Même toi.
Alors, c'est. Attends, c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que ça ne marche pas. Je comprends. Il pose la question, Michael, il dit c'est difficile pour expliquer pour la Shoah. Vous savez, Elie Wiesel, il est décédé il n'y a pas longtemps. Elie Wiesel, il a raconté, il dit c'est difficile à comprendre par rapport à la Shoah. Elie Wiesel, il a vécu la Shoah, bien sûr, il a vécu la Shoah. Il a écrit des livres par rapport à ça. Elie Wiesel, il a raconté qu'après la Shoah, une question qu'il taraudait, comme d'ailleurs pratiquement tous ceux qui ont passé la Shoah, c'est où était Dieu pendant la Shoah?
Voilà.
Ouais. C'est une question.
Grosse question.
Où était Dieu pendant la Shoah? Si on dit qu'il y a un Dieu, il était où? D'accord. Mais attendez. Il a raconté qu'il a posé cette question à des grands penseurs juifs, des rabbins, des penseurs juifs, etc. Et que leur réponse ne l'a pas satisfait. Parce que c'est bon, il lui a répondu, etc.
C'est dur.
Il a raconté qu'il a été chez le, il a été chez le rabbi. Il a été chez le rabbi. Et le rabbi aussi a perdu de la famille dans la Shoah. Il a perdu de la famille.
Donc c'est difficile.
D'accord. Donc il sait ce que c'est. Et son père aussi, son père, il cédait là-bas, c'était pas dans la Shoah, mais ça veut dire, il sait ce que c'est perdre dans les guerres, il sait ce que c'est. Et lorsqu'il est resté en Yéridout chez le Rabbi, je crois plus de 2h30. En général, l'entrée privée chez le Rabbi, ça durait 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum. Il est resté 2h30. Bon, c'est dire. Plusieurs fois en plus. Et il a raconté qu'une des questions qu'il a posées au Rabbi, c'était où était Dieu pendant la Shoah? Il raconte ça dans ses mémoires, hein, dans le livre Nuit, je crois. Et donc, le rabbi lui a répondu la chose suivante. Le rabbi lui a répondu par une question. Il a dit, moi j'ai une question à vous poser. Où Dieu n'était pas pendant la Shoah?
Ben, il n'était pas dans la
Shoah. Attendez, réfléchissez, les gars. Réfléchissez. Il raconte dans ses mémoires que c'est cette réponse qui... C'est pas une réponse. Mais cette réponse qui l'a calmé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en tant que personne qui est passée par la Shoah, il a vu que c'était tellement fort que même le Satan en personne, il n'aurait pas pu le faire. Mmh. Même le Satan en personne, il ne pouvait pas planifier tout ça. C'est pas possible. C'est tellement gros que c'est pas possible.
C'est long.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il a compris. Et quand, d'ailleurs, il y avait des gens qui voulaient expliquer la Shoah, etc., il y a des gens qui pouvaient expliquer à cause de l'assimilation, etc., le rabbi était très, très, très contre, avec des mots véhéments. Il disait que c'est très grave, c'est un sacrilège. C'est très grave de parler sur les gens qui ont quitté, de dire c'est une punition. C'est un manque de respect pour ces gens-là qui ont donné leur vie pour un cas de Shoah en cours. Seulement, comme j'ai dit. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à comprendre que ça veut dire que c'est Dieu qui n'était pas là. Dieu était là. Et Lévisel, il raconte dans ses mémoires que depuis que... Il a publié ça en plusieurs langues, je sais pas, en 20 langues, c'était traduit. Il raconte que depuis cette réponse du rabbi, il y a eu un switch dans sa vie. Ça veut dire, il a compris qu'il y a des choses que l'homme n'est pas conçu pour comprendre. Et à partir de ce moment-là, progressivement, vous savez qu'il vient d'une famille de chassidim. Il était chassid lorsqu'il était jeune. C'est un chassid. Et c'est un grand talmudiste, c'est pas n'importe qui. Et voilà ce qu'il a dit, c'est tout. Oui.
Le Rav Ronchagot dit que s'il n'y avait pas eu la Shoah, parce qu'il y avait dans les pays de l'Est énormément d'assimilation...
On ne peut pas dire ça, excuse-moi.
Non.
Il
n'y
aurait plus de peuple juif aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu...
Je pense pas qu'il ait dit ça.
Mais
on peut pas dire ça. Vous pensez normal que Dieu il a tué des millions de personnes
avec des côtes de porc devant les synagogues et qui mettait des tracts anti-juifs, des propres juifs.
Alors moi je vais vous dire, Dieu il a perdu au change, si vous voulez dire ça, parce que Dieu il a perdu au change parce qu'aujourd'hui il y a moins de juifs religieux qu'à l'époque.
Je sais pas.
Ah bah c'est la réalité.
En tout cas, écoutez Sandberg Torah là-dessus et vous verrez.
Enfin bon, en tout cas, le rabbi était très fort, fort contre cette approche.
Mais non.
Alors, Malachim m'a dit Zichron Mel Rabbashim.
Mon point de vue à moi.
T'as raison.
J'ai pas compris ce que t'as dit.
Oui, mais encore une fois, aucune raison au monde ne peut justifier la Shoah, logiquement. Voilà. Donc ça s'arrête là. Le débat démarre pas.
Religieux ou pas religieux,
t'es juif.
Même si t'es pas religieux, il y a toujours un peu.
Allez, les Chaïm.
On peut poser la question sur le lieu par religion.
Donc on avance, oui.
Si demain le fait n'est
pas. Il y a une question, ce Benita, ça y est. Votre crédit est épuisé.
Si demain.
C'est quoi la question?
Oui.
Demain, Marine Le Pen n'a pas.
Oui.
Il peut y avoir le même.
Je ne sais pas, peut-être.
Est-ce que. Non, ok, d'accord.
Où il était en 1492 quand Elisabeth...
Tout est voulu par Dieu. Monsieur Benita. Sa fille.
Je réponds à monsieur.
Si je n'avais pas été là, où on serait aujourd'hui?
Si
je n'avais pas été là, où on serait aujourd'hui?
On serait où?
Qui n'avait pas été là?
Dieu n'avait pas été là, mais ces moments-là.
C'est sûr qu'il était là. Ici. Alors reprenons les mots. Allez, rabotaille. Si vous voulez, on pourra faire un cours sur la Shoah, mais c'est pas l'objet. Qui? Ah, bien sûr. On y va. Qui? On va prendre, donc, Venimtsa, pardon, page 148, au milieu de la page. Venimtsa, il se trouve. Qui colle tachlit chez l'imot à Mashiach utriat ametim. Tout l'aboutissement des temps messianiques et de la résurrection des morts. Sheu gilug vodo velokuto itbarer, qui est le fait de dévoiler la divinité de Dieu dans le monde. Ou leavir roachatuma minaretz, et d'éradiquer l'esprit d'impureté de la terre. Comment on fait ça? On va rentrer dans les mots concrètement. Be'am shachat et le couteau vers un sof baruchu le nefesh achilut shibichlulut Israël b'chol remach evaria. Comment on fait? Ça va dépendre de. Il faut que chaque membre de notre corps, comme on a expliqué, va vivre la Torah. Mais c'est pas que chaque membre de notre corps. Ça, c'est ce qu'on a expliqué il y a deux cours. C'est beaucoup plus que ça. C'est que chaque parcelle du monde qui nous correspond, elle aura la Torah qui va être en elle. Elle va être utilisée par le Kadosh Baruch Hu. Ou la vir mimena be ruach tova mimena be shmirat hakol shem zelotaseh shelo imkumena shetagideh. Je passe à la page suivante, parce que ça, j'explique à l'oral. On passe à la page 149. Qui? Car? Klalout Israël. La communauté d'Israël. Shem, Shishim, Ribon, Neshamot, Pratiot. Qui sont 600 000 âmes. Bon, 600 000, on a grossi. En vérité, on a dit 600 150. Em, Klalout, Achayout, Shel, Klalout, Aolam. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Les 600 000 âmes individuelles constituent la vitalité globale du monde dans son ensemble. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait tenir le monde aujourd'hui? C'est les 600 000 âmes. Le monde est séparé en 600 000 parties, et chaque partie du monde, elle a besoin d'une partie d'un juif qui correspond. Et là, il y a la question de M. Benita, et de Joseph, qui dit, oui, mais attends, il n'y a pas que les juifs dans le monde. Et les goïms, on s'est accaparé, on a fait tout pour les juifs. Qui bishvilam nivra? Parce que le monde a été créé pour deux choses. Pour la Torah et pour Israël. Donc c'est clair. Ça veut dire que quand vous devez analyser, il faut analyser, il y a un but et il y a un moyen. Israël, c'est pas un moyen. Israël, c'est un, le peuple d'Israël, c'est pas un moyen, c'est un but. Donc, puisque tout a été créé pour Israël, ça veut dire que quand tu veux comprendre cette parcelle à quoi elle sert, cette table à quoi elle sert, forcément qu'elle sert à Israël et à la Torah. Donc elle doit quelque part servir à un juif. Quelque part. Peut-être maintenant, peut-être il y a un siècle, peut-être dans deux siècles, je sais pas quand, mais elle doit quelque part servir à quelque chose. Ataloui, vechol prat mehem, et il va aller beaucoup plus loin maintenant. Chaque âme, donc chaque âme individuelle, ou kolel veshayachlo achayut shalechat chelek echad vishim ribon mikalut haolam. Chaque âme individuelle est rattachée à la vitalité d'une parcelle, donc d'un 600 millième du monde. Comme on a expliqué, ça veut dire que chaque parcelle du monde a une part, est rattachée à
une âme.
Comment on a expliqué? Ataloui benafsho achilunit la yotel hachan le mala. Maintenant, c'est très simple. Même si Moshe Rabbeinu en personne, il venait pour prendre la parcelle qui me correspond, ça décolle pas. Il y a que moi qui peux le faire. Il y a que ma clé qui marche. Pour élever ce fricassé que j'ai plus le choix de manger maintenant, tout à l'heure, il y a que moi qui ai la clé pour l'élever. Que moi. Personne d'autre. Même Moïse en personne qui vient, il le mange, ça monte pas vers Dieu. Ça correspond à moi. C'est moi. Depuis la création du monde, c'était prévu que ce grain de blé, il appartient à Mendy Assouline. C'est prévu. C'est fou,
tout
ça.
Est verrouillé, hein, en fait.
Tout est verrouillé. Bien sûr, bien sûr, tout est verrouillé. Hein? Ah, maintenant, il faut manger. Pas au ratat, mais là, voilà, bon, réveillé, mais zonote.
Comme
ils
nous
ont
endormis, il va nous manger.
Il n'y a pas d'arme, il y a dedans.
Mais c'était prévu pour lui dedans.
On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Vous, vous savez pas. Moi, je sais pas.
Vous, vous savez pas.
Attends, tu m'as dit, excuse-moi.
Qui vous dit que je sais pas?
Donc, tu veux dire, celui qui mange du taref, c'est aussi prévu que c'est quoi ça? Non.
Non. Non. Le problème dans le taref, c'est que le taref, c'est une énergie qui n'est pas récupérable.
Voilà.
Donc ça ne lui appartient pas, tu ne touches pas à ça.
Récupérable ou nuisible?
Ah ouais.
Tout ce qui est récupérable. Ça correspond à un juif. Shem Shimribo. D'accord? Ça veut dire que chaque juif a sa part dans le monde. Chaque juif a sa part dans le monde. Je ne parle pas de part immobilier. Sa part dans le monde. D'ailleurs, c'est la même chose pour la Torah. On dit tous les jours, Veten Halkenu, Betoratera. Ça vous dit quelque chose? Où on dit ça?
Au début.
Veten Halkenu, Betoratera. À la fin de la tefila. On dit aussi au début. On demande à Dieu de nous donner notre part dans sa Torah. C'est quoi notre part? Ça veut dire que chacun de nous a une part dans la Torah. Chacun de nous a une vision unique. Qu'il n'y a que lui qui peut avoir. Chacune des âmes qui existent sur Terre a une vision unique que même Moïse ne peut pas avoir. Pourquoi? Autant le monde est séparé en 603 150 parts, et on a expliqué ça correspond à 603 000 âmes, autant la Torah aussi est séparée, si on peut dire, en 603 150, ça veut dire que chaque passouk, tu prends n'importe quel verset de la Torah, il y a autant de façons de le regarder, et la façon de Serge, ta façon de lire ce verset, elle est unique au monde. Personne jusqu'à maintenant ne peut regarder la Torah avec ton regard. Exactement. Et personne jusqu'à la fin des temps pourra regarder la Torah avec ton regard.
Exactement.
Tu as un regard unique sur la Torah. Et chacun de nous. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ça veut dire quoi? Des secondes.
Connecté comme.
Ça veut dire que chacun de nous a une part. Alors il continue. On va juste avancer un peu dans les mots. Daïnou, ça veut dire. Je suis l'avant-dernier paragraphe de la page 149. Bemash et Mishtamesh Meolam Azé. Le fait qu'un juif va utiliser ce monde-ci, un objet de ce monde-ci, un objet matériel, les tzorer, goufo, venafcho, achriunit, pour le besoin de son corps et de son âme vitale, la valatachem, pour servir Dieu. Kegon, par exemple, achila, ushtia, il va manger, il va boire, vedomehem, et tout ce qui ressemble, il va s'habiller, il va se laver, etc. Ce sont des choses vitales, sans lesquelles on ne peut pas vivre. Vedira, il va avoir une maison, il va habiter. Vechok le tachmishav, et on va remplir cette maison avec des tables, des chaises. On va avoir la bâtisse, le ciment, la bâtisse, la lumière, les tables, les chaises, le stylo que je vais écrire, l'ordinateur, etc. Tout. Ce sont des outils qui me permettent d'utiliser ma partie dans le monde. Ça veut dire que vous avez par exemple 10 millions d'ordinateurs qui sont fabriqués en série. Chaque ordinateur est prévu pour l'endroit où il va arriver, par Dieu. Chaque endroit a les étincelles qui correspondent à son endroit. Ça veut dire, c'est pour ça que le Baal Shem Tov dit la chose suivante, il dit quelque chose de très fort. Il dit, des fois ça nous arrive, et il commente un verset dans Tehilim. Et ce que je vous dis, c'est pas une invention de la Chassidoute, c'est écrit dans Tehilim. Dans Tehilim, il est écrit, si vous voulez la référence, c'est dans le psaume 37, il est écrit, « Me Hachem mitzade gever konanu ». Je traduis. « De Dieu, les pas de l'homme sont dirigés. » En d'autres termes, Dieu dirige les pas de l'homme. Alors, Dieu dirige les pas de l'homme. Attendez. Le Baal Shem Tov, il dit la chose suivante. On parle beaucoup de Baal Shem Tov parce que c'est le mois de Kislev, le mois de la Chassidoute. Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit, il arrive parfois qu'un juif se trompe dans sa route. Il atterrit à un endroit où il pense qu'il n'aurait pas dû atterrir. Par exemple, il se trompe de sortie.
Voiture,
ça arrive à tous en voiture. Il se trompe de sortie. Ouais. Ben, prend une route, sans se rendre compte, il croyait que, pac, et il prend un embouteillage. Ou bien je vous dire plus que ça. Je vous dire plus que ça. Des fois, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'une personne, il fait un choix qu'il comprend pas trop. C'est-à-dire, ça arrive des fois, par exemple, une personne, elle est venue, on lui propose d'acheter une société, on lui propose de se lancer dans une affaire, on lui propose de commencer un boulot. Et il dit oui. Il dit oui, il prend le boulot. Après, une fois qu'il a dit oui, il dit, mais attends, mais au bout de quelques mois, il comprend qu'en vérité, c'est un traquenard. Enfin, c'est un traquenard, ou en tout cas, c'est un boulot galère. Il dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Il ne comprend pas, il croit qu'il est bloqué, il croit qu'il a dit oui par hasard. Baal Shem Tov te dit, il n'y a pas d'erreur. Il te dit, c'est Dieu qui t'a dirigé à l'endroit où tu dois atterrir. D'accord. Ça veut dire quoi?
Attendez.
Ça veut dire que Dieu,
on parle de boulot, là,
il fait en sorte que l'homme va dans l'endroit où il doit aller. Comme il est écrit. Attendez, laisse-moi parler. Une seconde. Ve'alarta el amakom asher yifra Hashem Elokecha. C'est écrit dans la paracha Kitavo. Tu iras vers l'endroit que Dieu aura choisi. Ça veut dire que tout l'endroit où tu habites, tu vas habiter à Paris, tu vas habiter en Israël, tu vas habiter dans telle rue, tu vas déménager, tu vas être là, tu vas être dans tel endroit, tu vas dans tel bureau, tu vas déménager, tu vas changer ci, tu vas changer ça. Nous, on croit qu'on maîtrise tout ça. On croit qu'on dit, bon, c'est moi qui ai décidé, j'étais là, après j'ai déplacé ici, après je suis parti là, après je suis parti là. Baal Shem Tov te dit, ça, on maîtrise pas. En vérité, si on comprend ce que dit le Baal Shem Tov, on va essayer de comprendre.
On maîtrise rien.
Ça veut dire qu'en vérité, si vous voulez, le script tourne tout seul. Il y a un script qui tourne. Seulement, sur quoi on est jugé? Sur la façon comment on joue à chaque moment donné. C'est-à-dire que le script il tourne. Dieu a déjà décidé où je serai dans un mois, dans deux mois, dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est un script qui est déjà écrit depuis la création du monde. Dieu il sait exactement tout ce qui va se passer. Mais dans chaque seconde du script, il y a une façon de bien jouer et une façon de mal jouer. Comme un acteur, imagine-toi, tu le catapultes à, dans combien de temps dure un film? 2 heures? Tu le mets à 1h32min44s. Tu dis voilà, joue! Jusqu'à maintenant, c'est pas tes affaires. Après, c'est pas tes affaires. Maintenant, tu es à l'heure où, à la seconde, je me dis, action, joue! Il dit oui, mais attends, mais, y a pas attends, mais. Il dit, mais attends, j'aurais préféré avoir ce rôle parce que, laisse tomber. L'acteur dans ton rôle, il a déjà fait ça avant et avant. Ça, c'est fini maintenant, c'est classé. Donc maintenant, tu dois jouer dans le rôle qu'on te demande. Et tu peux pas maîtriser autre chose. Ça veut dire que nous, la seule marge de libre arbitre qu'on a, c'est, en l'état actuel des choses, comment j'évolue, est-ce que je joue bien ou est-ce que je joue mal? Je pense que le film, c'est un bon exemple. Parce que voilà, c'est quelque chose qui tourne contre ta volonté, c'est pas toi qui décides. T'as quelqu'un qui t'a donné un script, tu dois jouer le script, seulement tu peux décider où tu joues bien ou tu joues mal. Bah, c'est ce qui explique ici le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit, un juif n'atterrit jamais dans un endroit par hasard. L'endroit où il atterrit, s'il a fait, il s'est trompé dans l'autoroute, il s'est trompé de ci, il s'est trompé de ça, etc. Pourquoi il s'est trompé? Il a raté le train, il a pris un autre train, il a pris un autre métro, etc. Pourquoi? Pourquoi il s'est trompé? Pourquoi il a eu cette galère? Parce que, ou pas, il est parti en galère, c'est-à-dire il devait aller là, une fois il est parti en vacances en Espagne, une fois il est parti en Italie, une fois il est parti ici, etc. Lui croit, j'ai décidé, Lisa, on a tout géré, d'accord?
Ibiza, toi qui aimes Ibiza.
Il y a des étincelles de divines à Ibiza, après il ne faut pas aller chercher. Quoi? Tout est voulu par Akadosh Baruch Hu. Tout est voulu. Chaque chose, chaque seconde est calculée, chaque chose est calculée par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et ça, le Baal Shem Tov, il a montré à ses élèves. Il a montré à ses élèves, comment vous savez, le Baal Shem Tov, il a amené ses élèves. Et des fois, ça arrivait souvent qu'ils se trompaient, entre guillemets, dans la route. Et ils atterrissaient dans des endroits où ils ne pensaient pas atterrir. Et il leur montrait. Vous savez pourquoi on atterrit ici? Il sait qu'il y avait ça qui nous attendait, Le Baal Shem Tov avait cette grandeur. Comme l'ont d'ailleurs la majorité des tzadikim, cette grandeur de comprendre le moment, de comprendre pourquoi on est là. Nous, on n'a pas ça. Nous, on comprend ni le passé, ni le présent, ni le futur. Mais les tzadikim ont cette grandeur d'analyser le passé et sur la base du passé, comprendre le présent. Comprendre qu'est-ce qu'on fait là maintenant. Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant. C'est pour ça que des fois, tu vois un tzadik qui te dit, toi maintenant, va là-bas, fais ça, déménage, fais ci, fais ça. C'est pourquoi il me demande ça? Parce que le tzadik, il voit ton passé, le passé de ta neshama, il voit l'historique de ta neshama, et il sait que pour ta neshama, ce qu'elle a besoin maintenant, elle est pas à l'aise dans l'endroit où elle est, c'est pour ça qu'elle envoie des signaux, elle dit, je suis pas bien, il faut que je parte d'ici, d'accord? Et il dit, tu iras là-bas, il arrive là-bas, il est bien.
La base de quel passé? D'accord.
Le passé de la neshama.
De
l'historique. Il y a une historique. Tape dans l'ordinateur des neshamotes, hein, sur chaque neshama, tout l'historique de la neshama. Qu'est-ce qu'elle a fait? Où elle était? Où elle est partie? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? C'est les tzadikim qui le connaissent. Ça dit qu'il me savait exactement qu'est-ce qui correspond à chaque neshama. Ça veut dire quelle parcelle du monde correspond, correspond à quel neshama. D'ailleurs, à ce propos, vous savez, une fois, une lettre, une très, très jolie lettre du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Une fois, quelqu'un qui a posé une question. Un chouchette. Il était dans un endroit dans lequel, pour sa parnassa, il devait aller toute la semaine dans un endroit dans lequel il y avait pas minyan. Il a posé la question, au rabbi Yosef Yitzhak dans une lettre, qu'est-ce que je fais quand j'ai pas minyan? C'est quelqu'un qui avait toute sa vie, il a grandi avec le minyan, tu vois. Et là, il arrive dans un endroit dans lequel, du moins à la semaine, il n'y a pas le minyan. Et il lui dit, ouais, je comprends pas à quoi ça sert, pourquoi je suis là, etc., il n'y a pas de minyan, qu'est-ce que je fais sans minyan, etc. Alors, vous savez ce qu'il a répondu, le rabbi Yosef Yitzhak, une lettre extraordinaire. Il lui a dit, tu crois que Dieu t'a parlé à ça et te l'a envoyé dans cette ville, il n'aurait pas pu te l'envoyer dans ta ville? Ouais, au lieu de l'envoyer à 13e, il n'aurait pas pu te l'envoyer à Belleville. Et tu crois que Dieu, pour t'envoyer ta parnassa, tu dis, bon, bah, écoute, c'est la parnassa, j'ai pas le choix, j'atterris là-bas. Le rabbi, il lui répond comme ça. Il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi tu atterris dans cette ville. Tu atterris dans cette ville parce qu'à cause de cette ville, il y a une base militaire.
Il y a quoi?
Il y a une base militaire. Et dans cette base militaire, il y a des juifs. Oui, et il y a des juifs qui demandent depuis longtemps qu'il y a un rabbin qui vient de s'occuper d'eux. Et personne veut aller s'occuper d'eux. Alors qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il t'a placé, toi, le rabbin, dans cette ville paumée, où t'as même pas mignonne, peut-être 4-5 juifs, pour que tu ailles dans la base militaire pour l'enseigner la Torah.
C'est ce qu'il a fait?
C'est ce qu'il a fait, heureusement, j'espère pour lui. Ben oui. Ça, c'est la grandeur d'un tzadik, tu comprends? C'est toi, t'es là, tu crois, t'es paumé, tu dis, je suis pas mignonne, j'ai rien du tout. Il lui dit, bon, que Dieu t'envoie la parnassa là-bas. Ça, c'est un moyen, ça. Il t'a dit que la parnassa, l'autre, la mettre devant chez toi et te l'amener là-bas. Pourquoi il te l'amener là-bas? Il y a forcément un but quelque part autour. On cherche autour, il y a un but. Quand tu arrives pas, tu demandes bracha à un tzadik qui va t'aider à la trouver. Mais en général, quand tu regardes bien autour de toi, tu comprends tout de suite, le but qui est ici. Alors, ce qu'il dit ici, dit comme ça, dit que, on voit clairement ce qu'on dit ici, que chaque neshama a une parcelle dans le monde qui lui correspond. Et Dieu s'arrange pour que chaque neshama retrouve l'endroit qui lui correspond. On va faire une petite pause parce que je crois qu'il y en a qui ont des questions. Il y avait des questions.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit.
Ça, c'est bien. Tout va très bien. Le après ça, tant pis. Voilà, souris, ça là.
Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur Benita.
Monsieur Benita, d'accord. Mirai.
Servez-moi la même chose.
C'est comme ça que je vous vois, monsieur Benita.
Tu avais dit la fois dernière qu'on avait donc 248
négatifs.
Dans un, et tu as dit tout à l'heure là, que le but c'était de Israël et la Torah. Dans un Sefer, tu as 248 colonnes.
C'est la Torah, oui.
Dans Star Wars, tu as 248 colonnes.
Oui.
Et ces 248 colonnes correspondent ici, ce qu'on m'a expliqué à l'époque, hein, aux 248 mitzvot positives.
Oui.
Et donc c'est à partir de là qu'on a, si je reprends la liste que tu as évoquée tout à l'heure, donc ces 248 mitzvot qui sont dans les 248 colonnes correspondent à l'énergie globale pour toutes les neshamot, et chaque fois qu'on lit, nous, dans une paracha, on s'approprie une petite parcelle.
Ça, je sais pas, une colonne, je sais pas. Bon, c'est sûr que chacun de nous a sa lettre dans la Torah.
Il y a forcément un lien, puisque on t'a dit que ça a dégagé donc toute l'énergie globale pour le monde entier. D'accord ? Et chaque individu va prendre une petite parcelle de cette énergie. Ouais. Donc, à chaque fois que dans le monde entier, on ouvre les séfarim et qu'on lit la paracha, on dégage cette énergie-là.
Écoutez, je vais vous expliquer. En fait, je comprends ce que vous voulez dire. Chacun de nous, il a une parcelle dans la Torah. Je vais illustrer ça avec un exemple. Vous savez, une fois le rabbi, il a illustré ça avec un exemple. Il a dit, regardez, on va analyser l'exemple d'un juif, et qui est très fréquent, d'un juif qui a une boutique. C'est une vraie histoire qui s'est passée. Un juif qui avait une boutique, et qui voulait poser la question, est-ce qu'il déménage la boutique ou il déménage pas la boutique? C'est un juif du Brésil qui a écrit au rabbi. Qui a écrit au rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, alors que notre rabbi était encore son secrétaire. Maintenant, le rabbi dit, j'ai analysé cette histoire. Je me suis dit, regarde, t'as un juif brésilien, qui n'est pas spécialement religieux, bon, qui est religieux, mais voilà, qui écrit une lettre à un rabbin qui habite à New York, qu'il ne connaît pas, et qui n'est pas brésilien, et qui ne connaît, je veux dire, qui n'a pas fait de master en finance, en commerce, et qui ne connaît pas le marché brésilien. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il ne m'a pas seulement une bracha. Est-ce que une bracha pour la refoua chez les mains d'un tel et un tel? Il lui demande une question business.
Est-ce que je déménage?
Est-ce que je prends cette affaire ou je ne prends pas cette affaire? Tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut ce juif brésilien? Je veux dire, qu'est-ce que t'attends d'un rabbi? Comment tu attends ça? Et à ce moment-là, le rabbi l'a expliqué, il dit, ce qu'on voit d'ici, c'est que ce juif brésilien en vérité a tout compris. C'est qui c'est? Il a bien compris que le rabbi qui est à New York, il parlait du rabbi précédent qui était son beau-père, le rabbi qui est à New York connaît mieux ton affaire que toi qui es dans toute la journée et qui est sur place et qui est dans les affaires. Il connaît mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il voit la profondeur de la chose, il voit la neshama du business. Chaque business a une neshama, qu'est-ce que vous croyez? Ouais, il est là, il a atterri ça, l'autre il est commercial, l'autre il est auto-école, l'autre il est ça, l'autre il vend du chocolat, l'autre il vend, etc. Ouais, c'est par hasard. Hein? L'autre il vend des pizzas, etc. Bon, je vais vous faire le métier de chacun. L'autre il vend des livres. Il est parti vendre des livres aux Arabes. Où l'a trouvé ça?
C'est pas l'idée. C'est bizarre.
On est les fans de série, on
comprend
rien. Charles, comment
t'as fait? C'est vrai. Tu dis, mais attends, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Moi, tiens, j'ai une question à vous poser, Jacques. Jacques. Jackie. D'accord. Est-ce que quand vous étiez jeune, à l'âge de 18 ans, vous vous disiez, un jour, j'aurai une auto-école?
Pas du tout. Voilà, j'en aurais 10, il disait.
Alors expliquez-moi, comment vous êtes venu à l'auto-école? Comment ça arrive?
En tenant la comptabilité d'une auto-école.
Voilà. Vous voyez comment j'ai... Maintenant, je me dis, alors nous, on a envie de dire...
Il a vu les chiffres. Ramassé.
Il a raison. Attends, voilà.
Mais en tenant la
c'est l'étude.
Joseph, vous avez fait toute votre vie, vous avez fait des marchés.
Moi, j'ai rêvé depuis que je suis né.
Ah, d'accord. Et pourquoi vous avez rêvé? Il a rêvé de marcher.
Depuis que je suis né, commerçant.
La pogne.
Il fallait que je sois commerçant.
Etc, etc.
C'est pas un hasard.
Il a dit ça.
Mais c'est pas un hasard.
Qui c'est qui a dit ça?
Comment Serge? Il est dans le BTP et tout d'un coup, il passe Uber. Non mais j'ai compris. Mais pourquoi Dieu il a fait que Serge était en BTP jusqu'à deux ans, trois ans, et maintenant il est dans Uber?
Parce que j'ai.
Maintenant il a des parts chez Uber. Comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est ça la réponse. La réponse, c'est qu'en vérité, nous on croit. Et la vérité, c'est que chacun de nous, honnêtement, sans même me le dire, si chacun de nous ferait un petit effort de quelques secondes pour réfléchir sur son affaire personnelle, sur son travail, et réfléchir comment j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé à faire ce que je fais, il réalisera que c'est un pur hasard.
Moi, je connais toute l'affaire par cœur.
Il réalisera que c'est un pur hasard. Il réalisera, et donc, qui dit hasard, dit qu'en vérité, il y a un Dieu qui est derrière, qui t'a poussé. Vous savez qu'une grande partie des gens, on a aujourd'hui plus de, je crois, 60 ou 70% des gens qui font aujourd'hui un métier qui ne correspond pas avec les études qu'ils ont fait. C'est une réalité, ce que je vous dis. Non, mais c'est une réalité, ce que je vous dis. On a des chiffres, d'accord? Surtout sur Internet. Ça dépend des pays, ça dépend des villes, c'est pour ça que je ne veux pas grossir. Mais une grande partie des gens, plus de la moitié, et je dirais même la majorité, la majorité des gens font un métier qui n'ont aucun rapport avec les études qu'ils ont fait. Tu comprends? Tu dis, moi j'ai fait les études pour dire je vais aller là. Et j'ai fini là. Pourquoi j'ai fini là? Alors c'est pas du temps perdu.
C'est
pas du temps perdu, parce que l'homme il doit chercher sa route. On cherche sa route.
Les Tunisiens, ils ont fait des maîtrises,
c'est ça. Chaque métier.
Ils ont adopté les Chinois là-bas.
Avant, les gens avaient un nom qui faisait leur métier.
Ça, il n'y en a plus.
Mais d'où est venu le métier? Vous rêviez de vendre des armes quand vous étiez petit?
Pas du tout.
Alors?
Ouais, après, il y a comment... une affiliation avec
personne. Et après, son premier meurtre, il a vendu des armes.
Oui, il a bien sûr qu'il a des chances.
Recycle-toi dans les livres de TI.
Il y avait une question.
J'en ai à boire,
Adam. À boire, Aline.
Mon verre est plein.
Évidemment. Donc il y a du lien. Il lâche pas.
Oui.
Mais pourquoi Dieu nous donne pas la feuille de route?
Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous savez, c'est quoi la feuille de route?
Est-ce que ce serait pas judicieux?
Quand ma neshama, a fait une erreur, Dieu il s'arrange. Peut-être que ma neshama a fait une erreur, ça fait déjà 1000 ans, un millénaire. Dans une autre incarnation. Dieu fait en sorte, et il me dirige, pour que je repasse dans le même challenge que ma neshama a fauté, ça fait 1000 ans. Et que cette fois-ci, je vais pas fauter. Moi, je me rends pas compte. Moi, je crois juste, j'ai eu un challenge qui s'est présenté. Je ne sais pas qu'en vérité, le challenge qui se présente à moi, c'est peut-être la 20e fois qu'il est présenté à ma neshama, et que dans les 20 incarnations précédentes, j'ai foiré, excusez-moi du terme, et que maintenant, je vais réussir. Et qu'en haut, Dieu, il dit, bravo, t'as réussi, ça fait 20 fois. C'est la 20e fois que t'es passé, bravo, t'as réussi. Maintenant, moi, je sais pas, moi. Moi, je crois que je joue pour la première fois.
Mais ça veut dire qu'on part.
Comme le permis,
pas du tout. Si tu réussis, on réussit, ça veut dire qu'on part tout de suite aussi.
Si.
Ah oui,
mais on a tous des challenges, des choses sur lesquelles on réussit. Des choses qui viennent, des choses qui sont. On voit tout de suite, mais vous ne le voyez pas dans votre vie. Regardez, chacun de nous. Il y a des choses difficiles qu'on réussit facilement.
C'est vrai.
Ouais. Et il y a des choses faciles qu'on a beaucoup de difficultés. Ouais. Et c'est incohérent, tu comprends pas.
C'est très facile.
Tu dis, mais pourquoi? Tu dis, mais pourquoi je rate ça?
Le plan, par exemple.
On parle de choses importantes, alors.
C'est important pour moi.
Il y a un cours extraordinaire, il disait, il ne peut jamais qu'à réussir. Tu dis, comme par hasard, je suis posé dans mon magasin, j'ai trouvé. Comme par hasard, j'ai pas d'argent, la banque m'a financé. Il dit, tout ça, des hasards, ce que tu vois.
Bien sûr.
Vraiment, tu vois que tout est.
Moi, je pour le hasard.
Aucune. Il n'y a rien qui laisse au hasard. Mais Dieu ne joue pas au dé, monsieur.
Il n'y a pas de hasard.
Oui, mais enfin, on peut croire qu'il y a le libre arbitre de chacun de nous. C'est là le hasard.
Ce que je vous ai dit, le libre arbitre, c'est quand je suis au moment donné, je décide, je joue ou je joue pas. Et si je joue pas, tu me donnes une autre chance. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une centième, une millième chance.
Une mise balle pour changer le chemin aussi.
On change de place des fois, mais à la base, ça reviendra toujours. Il y a une mission à faire. Tu l'as pas faite, on te remettra dessus. on peut pas se sauver d'une mission. Vous savez, je vais faire un rapport aussi avec le
Shalom.
Attendez, je vais faire un rapport aussi avec le Shalom Bayit. Vous avez par exemple quelqu'un, il se marie avec une femme. Il y a un dicton qui dit, je dis pas que je l'approuve ce dicton, mais il y a un dicton qui dit, l'amour rend aveugle et le mariage.
Non, non, l'amour est aveugle et le mariage rend la vue.
Et le mariage rend la vue. Donc l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue.
Tu connais d'accord bien, hein
bon. Non mais plus sérieusement.
Cherche un pro là.
Rends la vue, ça rend la vue.
Ah oui.
Oui.
Non, plus sérieusement, attends. Si on se posait une question, on dit attends, regarde, comment ça se fait que j'ai fini avec cette femme?
Non, il y a un dicton quand même.
D'accord. Tu peux poser une question.
Oui.
Par exemple, il y a des fois des défauts que tu peux trouver dans ta femme que tu n'as pas vu avant de te marier. Pourtant, avant de te marier, t'as exploré, etc. Mais t'as pas vu. Et après, tu te maries, une fois que t'as signé, pack. Mais il était gros comme un poteau devant moi, comment je l'ai pas vu? Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, la femme a dit la même chose sur l'homme.
Il a vu que le
bon côté. Il a du vécu, là, aussi.
C'est quoi le pchat? Comment ça se fait? Alors, moi, je vous... Pas du tout. Vous croyez que c'est un hasard? Comme par hasard. Comme par hasard, il est parti dans un bar. Comme par hasard, il a rencontré. Comme par hasard, il a proposé cette fille. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Kadosh Baruch Hu, s'il a fait en sorte que tu te maries avec cette femme, en particulier quand c'est le premier zivoug, c'est-à-dire quand c'est la première union, après, le deuxième, troisième, bon, c'est moins fort, mais il y a une force aussi, d'accord?
Non, attends, mais c'est pas
là, non, attends, j'ai pas fini de parler, vous me laissez parler. Donc, attendez. En particulier quand c'est le premier zivoug, d'accord? En particulier quand c'est la première union, c'est Dieu.
Premier mariage, tu veux dire?
Premier mariage. D'accord? Oui, évidemment. En particulier quand c'est le premier mariage, c'est Dieu qui a prévu que tel neshama doit se parler avec tel neshama. Maintenant, comme il veut qu'il se marie, alors il va s'arranger pour qu'il y ait un coup de foudre, pour qu'est-ce que vous voulez, et qu'ils vont se marier. Mais ça, le coup de foudre, c'est un moyen. Parce que le coup de foudre, il va être au début, après c'est terminé. C'est terminé après. Attendez. C'est du tménix, ça.
C'est du tménix. Je vais pas me marier avec une femme qui est moche.
Alors, moi je vais vous dire, monsieur Benita, est-ce que je vais être cru? Attendez, bon, je vais éteindre pour ça. Lui, on lui dit Kalana Vachasuda. On lui dit que la Kala avec qui tu t'es marié, c'est une Kala qui est belle et qui est gracieuse.
La plus belle du monde.
Alors, la Gemara, elle dit, mais tu te poses la question. Il dit, mais comment tu peux dire, comment tu peux chanter qu'elle est belle et si elle est moche, si elle boite?
Mais
j'ai vu déjà. J'ai compris, mais je parle pas du khatan. Je parle du public. Il est là, elle est belle. Où elle est belle? Elle est pas belle, elle est moche. C'est un mensonge. Qu'est-ce que répond la Gemara? La Gemara dit non, pas du tout. La Gemara dit non. Elle dit pour lui, elle est belle. Pour lui, il la trouve belle.
Alors,
parce que toi, tu
es moche.
Non, mais. J'ai rien compris. Monsieur Benita, des fois, il y a des beaux gosses qui finissent avec des.
Des boudins,
d'accord? Et le contraire. Alors, comment ça se fait? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut que tel neshama se marie avec tel neshama.
Les goûts et les couleurs.
C'est tout. C'est le zivug. C'est une décision de Dieu. Et c'est écrit que pour Dieu, c'est dur de faire ça. C'est dur de faire en sorte que la personne qui doit se marier avec une autre personne, de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Parce que vous comprenez les stratagèmes que Dieu doit faire pour qu'un tel rencontre un tel. Posez-vous la question sur votre femme. Vous allez voir que le fait que vous l'avez rencontrée, ça tenait à rien du tout. Et que, à la place de la rencontrer, vous aurez pu rencontrer une autre femme sans aucun problème. Des fois, ça se tient à une intersection. C'est rien! Avec, exactement! Et pourtant. Alors, je vais vous dire pourquoi. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. C'est ça la réponse. La réponse est la suivante. La réponse est qu'en vérité, chaque neshama est prévu pour l'autre neshama. Et donc Dieu, il va s'arranger. Dieu, il va s'arranger pour que tu ne vois pas les défauts avant le mariage, du moins. Attendez, j'ai pas fini. Pour que tu ne vois pas les défauts de chez l'autre, etc. Comme ça, tu signes, parce que tu dois signer avec elle. Voilà, il faut que tu signes avec elle. Après, une fois que le mariage est passé, bon, là, d'accord. Mais attendez, voilà. Des fois, il y a des gens qui ont des difficultés. Des fois, il y a des gens qui ont des difficultés dans le couple.
J'ai des emmerdes avec.
D'accord.
Pourquoi il m'a collé avec
c'est ça. Exactement, c'est ma question. Alors, maintenant, justement, c'est ma question. Maintenant, des fois, vous avez quelqu'un, des fois, maintenant, qui va être là, qui va galérer avec sa femme. Il va galérer. Il a des problèmes. D'accord. Des problèmes.
Il
faut
le ramener après.
Ouais. Alors, attendez. C'est bon. Je réponds à la question. Des fois, vous avez des gens qui ont des problèmes. Alors, tu poses la question, tu lui dis, mais attends, est-ce que tu l'aimais quand tu t'es marié avec elle? Il dit, bah oui, certainement, si je l'aimais, je ne serais pas marié pour rien sinon. Et est-ce que, et aujourd'hui, tu dis, ouais, aujourd'hui, elle a un défaut énorme, etc. Alors, moi, je vais vous poser une question. Tu crois que c'est un raté de Dieu? Tu crois que Dieu, il a fait un raté, il dit, bon, bah, monsieur un tel, madame un tel, je croyais qu'ils allaient correspondre, en fait, ils correspondent pas, laisse tomber, ils vont divorcer. Mais pas du tout.
Bah, la preuve,
c'est, attendez, mais attendez.
Ça, c'est qu'il y a un raté. Mais,
non, monsieur Benita. Monsieur Benita, la clé, il faut savoir écouter déjà. Ouais.
Soulez-le.
C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. La réponse, c'est que tout est prévu par Dieu. Et Dieu, s'il a fait en sorte que madame Intel se marie avec monsieur Intel, c'est parce qu'ils doivent se marier ensemble. Ah, il y aura des difficultés après. Dieu, il sait qu'il y aura des difficultés après. C'est très bien qu'il y aura des difficultés après. Seulement, il veut que tel Neshama se marie avec tel Neshama. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une autre incarnation dans laquelle monsieur Intel était avec madame Intel, la Neshama Intel était avec Neshama Intel, et que ça s'est mal passé. Donc, il veut récupérer la situation. Et que maintenant, le challenge sur lequel on bute, c'est un challenge sur lequel on a buté dans l'incarnation précédente. Et regardez, quand vous comparez les couples ne se battent pas sur les mêmes choses. Un, il va se battre sur ça, et ça reviendra. Vous remarquerez qu'en général, les choses avec lesquelles on s'accroche avec notre femme, à peu près toute la vie, c'est la même chose. Et je suis sûr que les vétérans vous confirmeront, d'accord, que... les vétérans, vas-y, les vieux.
Il a vu...
Les vétérans, le club, le club. Je suis sûr que les vétérans me confirmeront que finalement, c'est toujours le problème qui t'a dérangé. Le problème qui t'a dérangé une semaine après le mariage... sera probablement le problème qui te dérangera jusqu'à la tombe.
Ah, mais moi, je vais vous dire le problème que j'ai avec papa.
Bon, ça s'arrête, vous grincez pour vous,
ça. Ah, c'est vraiment arbitre, un peu.
Réponse. La réponse, c'est que quand on est avec quelqu'un, c'est parce que Dieu a prévu qu'on soit avec cette personne. C'est le zivouk. Et on ne s'est pas trompé de zivouk. On ne peut pas se tromper pour le premier. Surtout pour le premier. Les deuxièmes, c'est différent. Deuxième, troisième, c'est différent. Les premiers mariages, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. C'est sûr que c'est la bonne.
Non.
C'est pas un mariage avec une goya, c'est une union. C'est pas un mariage.
Et quand il y a un divorce, quoi?
Quand il y a un divorce, c'est que l'homme avec son libre arbitre a décidé de changer de mission. C'est tout. Ça, c'est ce que ça veut dire.
Faut voir les causes. Donc,
il a fini sa mission.
Non, il n'a pas fini. Il a décidé de changer de mission. Après, c'est très compliqué ce que je vous dis. Hein. C'est... Je ne dis pas que c'est facile.
Une vieille histoire.
Il y a des cas dans lesquels la Torah dit qu'il faut divorcer. C'est très, 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 très rare. L'approche du rabbi en général, c'est que bien que le divorce est une option qui existe dans la Torah, mais c'est une option qu'il ne faut pas utiliser. C'est une option qui doit enlever. C'est-à-dire quoi, tu n'as pas le choix? C'est toi qui décides, t'as le choix,
quoi. On a le choix.
Oui.
Personne d'autre décide.
Ouais. Ouais.
Ouel. Toi, Ouel. C'est vrai, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. C'est toi qui décides jusqu'à quel seuil tu peux supporter.
Au début, tu l'as aimé, ce monstre.
Je crois qu'il y a 3 ans. Quand on a 20 ans, on n'a pas le choix quand on a 20 ans.
Hein? Bah oui, t'as raison.
Au début de la vie, on n'a pas le choix.
Tu l'as aimé, ce monstre.
Pas du tout. Parce que, encore une fois, Dieu, il fait en sorte de t'amener à l'endroit où tu dois arriver. Il a fait en sorte que tu atterris avec cette femme parce que c'est ton challenge d'être avec elle. C'est pas un raté de l'histoire. C'est pas quelque chose, c'est ton mazal. C'est pour toi. C'est ta mission. Ta mission, c'est de supporter son caractère. Et sa mission, c'est de supporter ton caractère. Y'a rien à faire. Voilà. Bon. Allez, rabotaille. Monsieur Benita, on consulte en privé après si vous voulez.
Qui a jamais rencontré la femme, c'est quoi? C'est que...
Ça veut dire qu'avec son livre à 8, il n'a pas voulu la rencontrer. Donc ce juif-là, un jour il va mourir, et un jour il va redescendre sur terre, et il faudra qu'il rencontre cet échama, qui sera dans un autre corps. Il n'y a pas le choix, on peut pas échapper à son histoire. Chacun a un challenge, tu le fais pas maintenant, tu le feras après. Tu peux pas échapper.
Et si ma chère, elle arrive entre temps?
Ma chère peut pas venir tant que tout le monde n'a pas terminé sa mission.
Non.
Bye bye. Galère,
galère.
Qu'est-ce que t'en sais qu'on est en galère?
Parce que des mecs sont là.
Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'incarnation précédente?
Ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont rien à faire.
Qu'est-ce que t'en sais?
Parce que là, s'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas à réussir.
Peut-être qu'ils ont un autre challenge.
Ah ok.
J'ai pas dit qu'ils ont droit de se marier avec Goya. Peut-être c'est un autre challenge. Voilà. Bon, on va terminer aujourd'hui avec ça. En tout cas, le but de notre cours aujourd'hui était d'expliquer que chaque détail de notre vie, d'accord, chaque détail de notre vie est calculé par Dieu. Et des fois on va avoir des enfants, et des fois on aura un enfant comme ci et un enfant comme ça. Et des fois on a un enfant qu'on va croire qu'il n'est pas comme on aurait voulu qu'il soit. D'accord? Il n'y a jamais d'enfant raté, ça n'existe pas un enfant raté. Si Dieu il a mis tel enfant avec telle personne, avec tel papa et telle maman, c'est que tel neshama correspond à tel et tel neshama. Tel neshama du fils correspond avec tel neshama du père et de la mère. Il n'y a pas où aller. On peut pas échapper à la mission. Donc quand on réfléchit comme ça, vous comprenez qu'on prend beaucoup de recul et on arrive à beaucoup relativiser. On s'arrête beaucoup moins à l'aspect technique des choses.
Aussi sur les midotes, quand même.
Évidemment.
Si on reçoit des fois une femme dure, c'est pour qu'on se taise, etc. Vous voyez, c'est un peu.
On peut être nous aussi durs.
Oui, voilà, des deux côtés.
Des deux côtés, évidemment. Voilà. Mais il y a toujours un travail. C'est pas un raté. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que monsieur Intel ait fini avec madame Intel. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Voilà.
Bon,
pourquoi peur?
En tout cas, Intel, il y en a 7 mariages, lui, bon. Hein
quoi? Quoi?
Tu vois?
T'as peur de quoi? T'inquiète. Pour être sûr de trouver. Quand par hasard, t'as tiré avec sa vie? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu chaque chose. Chaque chose. Chaque chose.
Et alors, qui mieux que lui, je t'en prie? Oui, on continue à faire des hommes. Hein.
T'es vraiment habillé tout le temps. Ah,
besoin de l'homme.
60 ans. Machin. Évidemment, donc on est sur la table. On a bu un peu. Donc, comment t'as discuté? Qu'est-ce que tu fais, toi?
Pourquoi pour une de 5 ans? Moi, je suis là. 3 de bien chez le rabbi.
Il me reste 2 mois. Moi, je suis comme ça, il me dit, il me reste 2 mois. Il me reste 2 mois.
En tout cas, moi, j'aurais obtenu la chenille cachée sous la feuille.
Mais là, il me reste 2 mois. Il me reste 2 mois. Comme ça, je suis assis là-bas, il est juste en face de moi. Il me dit, demande-lui si tu avais perdu de
chenille. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du
tout. Vous avez une paire de chenille, monsieur? Il me dit, non, j'ai pas de paire de chenille. Ok. Entre temps, on rentre à Paris, là, hein, il me dit, on va s'occuper.
C'est l'heure de la clope.
On va voir, il amène la paire de tefilin. Maintenant, il est condamné, hein, les médecins l'ont condamné. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes condamné, il vous reste 2 mois.
Ouais, j'ai trop bu, là.
6 mois est passé. Ouais. Donc, moi, je l'ai oublié dans ma tête, monsieur. Je l'ai oublié sans l'avoir oublié, mais ça veut dire que j'ai repris mes activités, ma vie. On est Simchat Torah, on prend le tour de la Teva comme ça, il me dit, Baruch Mechaya Meshim.
Il est là.
Il dit, celui qui fait revivre les morts. Je t'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Je te rappelle le monsieur qui m'a donné la paire de tefilin. Il est vivant et il a plus rien.
Oh.
Wow. Une histoire, on va aller truc. Et maintenant que je remets dessus. Une histoire de.
Quelle qui passe par l'OL.
Ouais. Voilà.
Belle histoire.
Ouais.
Bon. Très vrai, à méditer, on continue la semaine prochaine.
Très riche. Émouvant.